Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, vous écoutez présentement l'heure de la vérité. L'heure de la vérité qui est ce rendez-vous hebdomadaire que nous avons sur votre radio. Oui, l'heure de la vérité, c'est votre émission de méditation profonde. Oui, l'heure de la vérité, c'est cette émission où la vérité biblique uniquement est proclamée sans détour, sans compromis et sans concession. Pour vous servir, je demeure votre humble serviteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'honorer ce rendez-vous. Ce rendez-vous que nous avons avec la vérité biblique, le Christ ayant dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité se chargera de vous rendre libre. Donc, rassurez-vous, ne bougez plus le bouton de votre poste récepteur parce que ce n'est pas en vain que le Seigneur a permis que vous soyez à l'écoute. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus, merci pour ce jour nouveau que tu nous as donné de voir sous le soleil. Merci pour tes bienfaits, tes grâces qui nous ont accompagnés jusqu'à cette heure-ci. Merci pour tout ce que tu feras encore dans chacune de nos vies. Merci de bénir particulièrement ce moment. Bénis aussi ta sainte parole dans les vies, dans le cœur. Que ta parole ne soit point en vain. Qu'elle accomplisse sa mission dans le cœur, dans les vies, à savoir les rendre libres. Merci Seigneur, à toi les honneurs, la majesté, la souveraineté, le règne et la puissance, maintenant et à jamais. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous intéresser au texte qui doit attirer notre attention. Ce texte se trouve dans le livre du prophète Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 1er, à partir du premier verset, où il est écrit ceci. Je dis bien que nous sommes dans le livre du prophète Samuel. 1 Samuel, chapitre 1er, à partir du premier verset, il est écrit. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Lehu, fils de Tohu, fils de Suf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne, et l'autre, Pénina. Janina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme... Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinée, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Penina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sûreté de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait dans la maison de l'Éternel, Peninnah la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Et quand son mari lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria, l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, et Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et elle lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Verset 18, elle le dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus la même. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans les maisons à Rama. Parole du Seigneur. Amen. Voilà un texte qui nous relate une histoire, l'histoire d'une famille. Et l'homme s'appelait Elkana. Et cet homme avait 2 femmes. L'une des femmes s'appelait Anne et l'autre Peninnah. Et la Bible nous dit que Anne était stérile, non d'enfant. Et Peninnah avait 2 fils et 2 filles. Et la Bible nous dit que chaque fois, cette famille allait adorer le Seigneur. L'Éternel des armées. Oui, donc c'était une famille de croyants. Ce n'était pas une famille de païens. C'était une famille de croyants. Et chaque fois, cette famille allait adorer le Seigneur. Et à cette époque, offrait même des sacrifices à l'Éternel. Parce que c'était l'époque où les sacrifices étaient encore en vigueur. Ils offraient les sacrifices et ils adoraient Dieu. Mais cette famille avait aussi beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Oui, la Bible nous dit, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sûreté. Oui, donc chaque fois, Pénina faisait exprès d'irriter Anne parce qu'elle n'avait point d'enfant. Donc elle jouait ce jeu, lui des moqueries. Et pourtant, c'était des croyants. Oui, c'était des croyants. Ou bien, si vous voulez, des croyantes, particulièrement ces femmes. Puisqu'elles allaient chaque fois devant le Seigneur pour adorer Dieu. Mais n'empêche qu'il y avait des attitudes vraiment un peu bizarres. Et c'est aussi beaucoup de choses que nous voyons autour de nous. De nos jours, beaucoup de gens, malgré le fait qu'ils vont chaque fois adorer Dieu dans les temples, parfois il y a des choses qui se passent, qui se pratiquent, où l'on se demande, est-ce que ce sont vraiment les croyants qui sont en train de faire de telles choses? Oui, parfois dans la même famille, il y a des moqueries, il y a de l'égoïsme. Dans une même famille, il y a des divisions et toutes sortes de trahisons. Dans une même famille. Et pourtant, c'est une famille croyante. Ces gens sont chaque fois dans les temples pour prier et adorer Dieu. Mais ça ne les empêche pas tout de même de faire des choses qui n'ont rien à voir avec vraiment ceux-là qui connaissent Dieu. Les choses qui n'ont rien à voir avec les pratiques de ceux-là qui connaissent Dieu. Donc, on peut bien être croyant. On peut aller chaque fois adorer Dieu. La Bible dit même qu'il faisait des sacrifices, donc il donnait les offrandes même. Peut-être même les dîmes. Mais n'empêche qu'il y avait vraiment de sérieux problèmes dans cette famille. Oui, beaucoup vont dans les églises, donnent les dîmes, donnent même les offrandes. Et font beaucoup d'autres choses, des sacrifices. Mais n'empêche que ce qu'ils font vraiment n'a rien à voir avec Dieu et la parole de Dieu. Si vous êtes dans cette situation, il est temps pour vous d'échanger. Si réellement vous êtes cette personne qui adore Dieu, vous deviez prouver que vous croyez vraiment en Dieu en faisant ce qui est digne d'un enfant de Dieu. Oui, pratiquez ce qui convient pour montrer que vous êtes vraiment un croyant ou une croyante. C'est très très important. Ça ne sert à rien d'être à l'église presque tous les jours et d'être cette personne qui crée tous les problèmes au quartier. D'être cette personne qui mal parle des gens. D'être cette personne qui se moque des autres. Ce n'est pas normal. De qui est-ce que vous vous moquez? Et vous serez fier de dire, je suis de telle religion. J'ai été baptisé et même confirmé. Oui, ça ne sert à rien de vous glorifier de ces choses. Si ce que vous pratiquez, la vie que vous menez, n'honore pas et ne glorifie pas Dieu. Oui. La Bible nous dit que son mari, Elkana, dit bien ici le mari d'Anne. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne. Alléluia. La Bible nous dit ici que curieusement, Elkana aimé beaucoup Anne qui était stérile. Et c'est ainsi que pour manifester, pour prouver son amour envers elle, chaque fois lorsqu'il faisait des sacrifices, il donnait à Anne une double portion par rapport à l'autre femme. Et nous avons une très grande leçon à tirer de cette portion de Saintes Écritures que nous venons de lire. Voilà un homme qui avait deux femmes. L'autre lui avait donné des fils et des filles. Et l'une de ces femmes était stérile. Mais curieusement, il aimait beaucoup cette femme qui était stérile. C'est exactement le contraire de ce que nous voyons parfois au milieu de nous. Parfois, lorsqu'une femme n'accouche pas dans les délais imposés par l'homme ou la famille, cette femme commence à être méprisée. Oui, on la traite de moins que rien. Tout simplement parce qu'elle n'a pas enfanté, parce qu'elle n'a pas donné des enfants. Et c'est ainsi que la pression est mise sur l'homme afin qu'il puisse chercher rapidement une autre femme. Oui, c'est ainsi que la belle famille méprise cette femme. Elle l'insulte chaque fois en disant, « Qu'est-ce que tu fous chez notre fils ? Tu ne lui as pas donné même un petit-fils. Oui, même un petit bébé. Tu n'arrives pas à le lui donner. Qu'est-ce que tu fous chez notre fils ?» Et c'est ainsi que, la plupart des temps, la femme qui est stérile vraiment subit toutes sortes de moqueries, d'insultes de la belle famille ou même, parfois même de l'homme. Lorsque un homme épouse une femme, ce n'est pas pour que cette femme lui donne des enfants. C'est vrai que les enfants font partie des dons de Dieu et c'est tout à fait normal qu'une femme fasse des enfants dans son foyer. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'on doit prendre une femme. Ce n'est pas pour cette raison qu'on doit épouser une femme. Les raisons qui doivent pousser un homme à épouser une femme doivent être plus que cela. On doit épouser une femme parce que l'on aime cette femme. C'est pour cette raison que l'on a l'habitude de dire que pour le meilleur et pour le pire peut être que cette femme peut ne pas enfanter. Et on doit continuer à l'aimer de la même manière. Et vice versa, bien entendu. Oui, donc il faut rectifier beaucoup de choses dans nos mentalités. Parce que ce sont ces choses-là qui détruisent les familles et détruisent aussi notre société. Oui, on ne doit pas aimer une femme parce qu'elle donne des enfants. On doit aimer une femme parce qu'elle est notre femme et qu'on doit l'aimer. Peu importe ses faiblesses, peu importe son caractère, peu importe ses manquements. Oui, c'est ça l'amour. L'amour ne doit pas se baser sur quelque chose. L'amour est sans condition. Parce que c'est de cette façon que Dieu nous a aimés. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour nous. La Bible nous dit que alors que nous étions encore des pécheurs et des pécheresses, Jésus-Christ est mort pour nous. Donc, il n'est pas mort pour les justes. Il n'est pas mort parce qu'il avait vu quelque chose de bien en nous. Bien au contraire, il nous a aimés malgré le fait que nous étions plongés dans la corruption, le mal, sous toutes ses formes. C'est de cette façon que nous allons également aimer notre femme ou notre mari, sans condition. Et nous voyons que cet homme, Elkanah, vraiment était vraiment spécial à ce niveau. Malgré le fait que Anne était stérile, il l'aimait beaucoup et lui donnait chaque fois le double de ce qu'il donnait à l'autre femme. C'est vraiment à souligner et à apprécier et même à encourager et recommander aussi. La Bible nous dit que chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Peninnah la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Il y avait vraiment des sérieux problèmes dans cette famille. D'un côté, il y avait une femme stérile. De l'autre, une femme qui s'amusait et a mortifié sa rivale ou bien sa coépouse qui prenait plaisir à se moquer d'elle. Et ce qui est curieux, même lorsqu'ils allaient adorer Dieu, rien ne changeait. C'était la même attitude. C'est tellement regrettable, une famille de croyants. Et c'est ainsi que Anne ne mangeait plus. Oui, et son mari, ayant remarqué cela, lui a dit, pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi pleures-tu? Donc, Anne pleurait même tout le temps à cause de cette situation. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Lui demande son mari. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Il y avait vraiment des sérieux problèmes dans cette famille. Imaginez une femme qui ne mange plus, qui passe son temps à pleurer, le cœur attristé. Et pourtant, tous les jours, ils priaient Dieu. Ils allaient le plus régulièrement possible adorer Dieu dans un temple, offrir même des sacrifices, faire des offrandes, donner des dîmes. Mais il y avait tellement de problèmes. Écoutez. C'est ce que nous pouvons remarquer autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui sont des croyants sur cette terre, mais qui ont aussi tellement de problèmes pour la simple raison que beaucoup sont tout simplement des religieux et non pas des vrais croyants. Oui, il y a beaucoup plus la pratique de la religion que vraiment la manifestation de la vraie foi. Parce que là où il y a la vraie foi, oui, là où il y a la vraie foi, il n'y aura pas des moqueries. Il n'y aura pas ce genre de choses. Surtout au sein d'une même famille. Oui, nous sommes des spécialistes de la religion. Mais malheureusement, la religion ne résout aucun problème. Oui, c'est pour cette raison que malgré le fait que beaucoup de gens prient selon leur religion, il n'y a pas toujours de résultats. Il n'y a pas toujours de changements. C'est comme si les problèmes ne font que s'empirer. Parce que c'est la religion, mesdames et messieurs. Et la religion ne produit rien de concret. La religion ne sauve pas et ne change pas la vie des gens. Et je sais de quoi je parle. Si la religion pouvait changer les vies et changer les choses autour de nous, c'est que nous sommes bien. Parce que lorsque je vois les multitudes qui sont abonnées à des religions, lorsque je vois les dimanches, les multitudes sortant des temples, parfois habillées tout en blanc, je me dis toujours, si ces multitudes priaient vraiment et que leurs prières étaient vraiment exaucées, c'est qu'il y a moins de problèmes dans nos familles et autour de nous. Mais malgré le fait que les gens sont zélés pour leurs religions, sont constamment en train de prier, de chanter, de faire même les offrandes, donner les dîmes, c'est comme si les problèmes ne font que s'empirer. Il faut s'arrêter un tout petit peu et réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que nous servons vraiment Dieu comme cela se doit? Est-ce que nous prions vraiment comme cela se doit? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un changement? Pourquoi les problèmes ne font que s'aggraver? Est-ce que le Dieu qu'on prie est vraiment ce vrai Dieu qui est tout puissant, qui a créé les cieux et la terre, qui a dit qu'il exauce les prières? Est-ce que c'est vraiment ce Dieu que nous servons? Est-ce que nous servons vraiment ce Dieu comme cela se doit? Il est temps de s'arrêter un tout petit peu et de réfléchir dans ce sens. Oui, et de rectifier les choses pendant qu'il est encore temps. Oui. Votre religion ne vous sauvera pas. C'est la foi vivante envers le Seigneur Jésus qui peut vraiment vous sauver. C'est vraiment cette foi vivante, la vraie foi, qui peut changer les choses dans nos familles, qui peut changer les choses autour de nous. Et pour cette raison, il faut vraiment avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Chacun doit faire l'expérience de la nouvelle naissance, c'est-à-dire ouvrir son cœur et inviter le Seigneur Jésus à venir entrer dans son cœur, dans sa vie. Faites-le et vous allez voir que désormais, beaucoup de choses vont changer positivement autour de vous dans votre vie. Parce que le Christ en ce moment-là est dans votre cœur. Et il est vivant dans votre cœur. Et là où le Christ est vivant, il se manifeste et il agit. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ entre véritablement dans le cœur de quelqu'un, cette personne ne sera plus une personne qui se moque des gens, une personne qui ment, une personne qui se plaît à voir les autres souffrir. Oui, malheureusement, c'est ce que nous voyons souvent autour de nous. Dans la même religion, dans la même église, les gens se trahissent, les gens se méprisent, les gens se calomnient. Oui, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Les gens se plaisent à voir les autres souffrir au lieu plutôt de les aider. C'est parce qu'il n'y a pas le Seigneur dans le cœur. C'est l'apparence. Oui, c'est l'apparence de la piété que la plupart du temps, les gens, ils s'habillent en blanc, mais le cœur, il n'y a point Dieu. À l'intérieur, il n'y a point le Seigneur Jésus. Il faut vraiment rentrer en soi-même et faire quelque chose pendant qu'il est encore temps. Mes frères et sœurs, chers papas, chers mamans, vous tous qui êtes à l'écoute, vous écoutez l'heure de la vérité et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La Bible va continuer à nous dire des choses concernant cette famille. La Bible nous dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel et l'amertume dans l'âme. Oh, vous voyez, une croyante, mais qui avait l'amertume jusque dans l'âme. Elle était amère. Quand on parle de l'amertume, une personne qui est amère. Oh, c'est triste. Comment est-ce que les enfants de Dieu peuvent-ils arriver jusqu'à ce stade où ils sont amers? Quand on dit que quelqu'un est amer, vous pouvez imaginer. Ça veut dire que lorsque la personne va parler, ça va blesser l'amertume. Non, en tant que croyant, c'est plutôt la joie du Seigneur qu'on doit voir sur notre visage. C'est la paix, la sérénité du Seigneur qu'on doit lire sur notre visage et non l'amertume et la tristesse. Parce que le Dieu vivant qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, c'est un Dieu qui nous a franchis. Et lorsqu'il nous a franchis, nous sommes désormais libres. Et en tant que des personnes libres, nous avons la joie du Seigneur. Nous avons la joie de vivre. Nous avons la paix du Seigneur. Nous vivons dans la victoire du Seigneur. C'est ça la véritable foi. Selon la Bible, mesdames et messieurs. Et la Bible continue en disant que et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu donnes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Alléluia. Anne avait l'habitude de prier, surtout concernant son principal problème qui était l'enfant, parce qu'elle était stérile. Donc elle avait l'habitude de prier afin que le Seigneur puisse vraiment lui donner les enfants. Mais ici, nous allons voir que Anne va prier d'une façon spéciale. Oui, à un moment donné, nous allons changer la façon de prier. Est-ce que vous avez remarqué que vous avez tellement prié concernant certaines situations, certains sujets, et qu'il n'y a pas eu un changement? Bien au contraire, les choses se sont empirées. Il est peut-être temps de vous arrêter et de prier autrement. La Bible nous dit que lorsque nous prions, Dieu n'exauce pas parce que nous prions mal. Oui, la plupart du temps, nous prions très, très, très mal. C'est pour cette raison que beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. À vrai dire, si toutes les prières qui sont élevées sur cette terre parvenaient jusqu'à Dieu, si Dieu les exauçait vraiment, c'est qu'il n'y a plus de la guerre sur la terre. C'est qu'il n'y a plus de souffrance et de la misère sur la terre. Mais la plupart du temps, les prières ne montent pas jusqu'à Dieu. C'est pour cette raison que le monde va mal. Parce que les hommes prient mal. Ils prient avec des mauvais cœurs. Ils prient avec des cœurs pleins de méchanceté, de jalousie, d'hypocrisie. Et j'en passe. Ici, Anne va faire un vœu. Elle va dire, « Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te consacrer cet enfant pour toute sa vie. Et durant toute sa vie, il va te servir. » Oh, voilà. Pour une fois, Anne avait fait une prière intéressante. Oui, Anne avait l'habitude de prier pour pouvoir avoir un enfant, mais elle ne priait pas. Parfois, nous pensons que nous prions alors que nous ne prions pas du tout. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de changement. À un moment donné, il faut prier véritablement, comme cela se doit, selon Dieu. Et vous allez voir un changement. Avant, lorsque Anne priait, c'était pour avoir des enfants, pour montrer aussi à sa coépouse qu'elle a enfanté. C'était pour concurrencer sa coépouse. C'est pour cette raison que Dieu ne lui avait pas permis d'avoir des enfants, parce que l'esprit dans lequel elle voulait avoir les enfants, c'était aussi pour montrer à sa coépouse qu'elle aussi, elle peut enfanter, qu'elle a les enfants. Surtout comme sa coépouse se moquait d'elle, comme elle était stérile. Et puisque les motifs n'étaient pas bons, n'étaient pas propres aux yeux de Dieu, elle était toujours stérile. Oui, parfois, les motifs qui nous poussent à demander certaines choses à Dieu ne sont pas bons. Certaines personnes veulent telle chose, telle autre chose, juste pour concurrencer les uns et les autres. Oui, juste parce qu'ils ont vu que telle personne a eu telle chose, il faut aussi que j'ai cette chose. Dans un esprit de concurrence, beaucoup de gens prient et ne reçoivent rien de la part de Dieu. Beaucoup ont des motifs impurs qui les poussent à prier. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de résultat. Et lorsque nous allons commencer à prier d'un cœur sincère et pur, avec des motifs purs, il y aura exaucement. Et la Bible nous dit que voilà que Anne, elle va prier en disant à Dieu, « Si tu me donnes un enfant, je vais te consacrer cet enfant. Toute sa vie, il va te servir. » La Bible nous dit que à partir de ce moment-là, elle s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Vous voyez, tout d'un coup, son visage s'est changé. Ce n'est pas parce qu'elle avait déjà un enfant. Elle venait juste de prier. Mais elle avait cette fois-ci la certitude et la conviction que Dieu l'a écouté et que Dieu l'a exaucé. C'est pour cette raison qu'elle pouvait maintenant manger et boire et avoir un visage rayonnant. Parce que maintenant, le Saint-Esprit avait témoigné dans son cœur qu'elle venait de prier une bonne prière et que Dieu devait exaucer cette prière. C'est ce qui se passe. Lorsque vous priez selon la volonté de Dieu, vous pouvez être sûr que votre prière a été déjà exaucée. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, que tout ce que vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Prier avec foi, c'est prier aussi selon la volonté de Dieu. Donc, lorsque quelqu'un a prié selon la volonté de Dieu, la personne peut dormir tranquille parce que sa prière a été déjà exaucée. Donc, cette femme, Anne, en ce moment précis, le Saint-Esprit a témoigné dans son cœur, tu viens de faire une très bonne prière et à partir de maintenant, ta prière sera exaucée. Oh, alléluia. Alléluia. Et justement, parce qu'elle avait fait une bonne prière, la Bible nous dit, nous sommes toujours dans 1 Samuel chapitre 1er. partir du verset 19, il est écrit « Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. » Alléluia! Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Oh, c'est merveilleux. La Bible nous dit que, curieusement, elle est devenue enceinte. Enceinte. Dans le cours de l'année. Donc, cette même année, elle est devenue enceinte. Oh, beaucoup qui sont à l'écoute. Cette même année, au courant de cette année, beaucoup de choses vont se passer dans votre vie. Oui, beaucoup qui sont à l'écoute. Peut-être dans votre vie, il n'y avait que la mort spirituelle. Il n'y avait que stérilité dans ce que vous faites. Il n'y avait aucun progrès, aucun succès, aucune réussite. Au courant de cette même année, Dieu va se souvenir de beaucoup parmi vous. Et Dieu agira dans chacune de vos vies. Alléluia, si seulement si vous pouvez commencer à faire quelque chose. Consacrez-vous à Dieu. Consacrez-vous totalement au Seigneur, esprit, âme et corps. Dis Seigneur, je me donne à toi. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je veux vivre pour toi et pour ta gloire. Et vous allez voir beaucoup de choses vraiment se déclencher de façon automatique dans votre vie. Les choses pour lesquelles vous avez prié pendant des années et qu'il n'y a pas eu de changement. Peut-être même cette maladie qui vous ronge pendant des années. Vous avez tout fait, rien, même pas un soulagement. Au cours même de cette année, Dieu va se souvenir de vous. Il va vous délivrer, il va vous guérir gratuitement. Si et seulement si, vous pouvez vous consacrer au Seigneur. Dites Seigneur, prends ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne toute mon existence. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je veux vivre rien que pour ta gloire désormais. Je veux vivre pour faire ta volonté. Fais cette prière maintenant. Faites cette prière. Même si c'est dans votre cœur. La Bible nous dit qu'Anne priait même que dans son cœur. On n'écoutait même pas ce qu'elle disait. Si bien que le souverain sacrificateur Élie pensait qu'elle était même ivre. Parce qu'il voyait uniquement ses lèvres se remuer. Oui, vous pouvez prier même dans votre cœur. Le plus important, c'est votre foi. C'est ce qu'il y a dans le fond de votre cœur. C'est la décision que vous êtes en train de prendre. Oui, et j'ai dit, au nom tout-puissant Seigneur Jésus, au courant de cette année même, votre vie va changer. J'ai dit, votre vie va changer. Beaucoup de portes vont s'ouvrir au-devant de vous. Beaucoup d'obstacles seront dégagés sur votre chemin. Et oui, vous allez voir la lumière de Dieu. Vous allez voir la grâce de Dieu. Vous allez voir la victoire, le succès de Dieu. La délivrance du Seigneur, le salut du Dieu vivant dans votre vie, dans votre famille. Oh, alléluia, alléluia. Que c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et lorsque Anne va tomber enceinte, elle va enfanter un fils. Et elle va l'appeler Samuel. Et nous sommes en train de lire dans le livre de Samuel. Oh, alléluia. Donc, cet homme qui est venu au monde n'était pas n'importe qui. Cet enfant va devenir l'un des plus grands prophètes de tous les temps. Oh, alléluia, le prophète Samuel. Et nous sommes en train de lire son livre. Nous sommes dans le livre de Samuel. Oh, alléluia, alléluia. La bénédiction de Dieu, c'est cette bénédiction qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Quand c'est Dieu qui vous bénit, vous êtes vraiment béni. Si ce n'est pas Dieu qui vous bénit, cette bénédiction risquera d'être une source de chagrin pour vous. Mais voilà cet enfant qui est venu au monde et qui va finir par vraiment faire des choses extraordinaires en Israël. L'un des plus grands prophètes de tous les temps et surtout l'un des premiers juges en Israël. Oh, c'est vraiment merveilleux. Donc au travers de vous, Dieu peut faire des choses. Au travers de vous, Dieu peut susciter même des prophètes. Dieu peut susciter des présidents, des ministres, des rois. Oui, des préfets, des sous-préfets, des gouverneurs, des sénateurs, des députés. Oui, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Oui, Dieu peut faire au-delà de ce que vous pouvez même imaginer, espérer, mesdames et messieurs. Et la Bible nous dit que Quand elle est lui, c'est vrai. Elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et 1 outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Verset 26. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Alléluia. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et il se prosternait là devant l'Éternel. Oh, alléluia. Nous voyons aussi comment Anne, qui avait fait un vœu, va maintenant honorer son vœu. Elle avait dit à Dieu, « Si tu me donnes un enfant, je vais te consacrer cet enfant. Et cet enfant va t'appartenir et va te servir toute sa vie. » Et voilà que la Bible nous dit que lorsqu'elle a sévré cet enfant, elle est montée dans la maison de l'Éternel à cette époque, oui, où il y avait la maison de l'Éternel. Et elle a trouvé le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui était là. Elle a dit au souverain sacrificateur, j'étais ici, il n'y a pas longtemps, j'ai prié pour cet enfant. Et j'avais fait un vœu au Seigneur par rapport à cet enfant. Et Dieu m'a écouté, Dieu m'a exaucé. Et je viens accomplir ce que j'avais promis. Je viens donner cet enfant à l'Éternel. Et c'est ainsi que Samuel va grandir dans la maison de l'Éternel. Si vous lisez son histoire, oh, c'est merveilleux. Lorsque Dieu honore sa part des contrats, vous deviez aussi honorer le vôtre, mesdames et messieurs. Parce que là, c'est une tragédie humaine. Je connais tellement de personnes qui n'honorent jamais les paroles. Oui, beaucoup de gens n'honorent jamais les paroles. Ce qui est tout simplement regrettable. Vous deviez être un homme et une femme de parole. Lorsque vous dites quelque chose, vous deviez honorer ce que vous avez dit. Ne changez pas les paroles du jour au lendemain. Oui, ça m'attriste terriblement de voir même beaucoup d'enfants de Dieu qui n'honorent pas les engagements et les paroles. Beaucoup mentent même, beaucoup promettent beaucoup de choses. Mais lorsque c'est le moment, oui, d'honorer ce qu'ils ont promis ou dit, ils ne sont pas prêts à le faire. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je connais également beaucoup de gens qui sont venus me voir. Parce que ces personnes avaient vraiment des problèmes. Des sérieux, sérieux, sérieux problèmes. Lorsque nous avons prié et que ces personnes ont pris l'engagement de suivre désormais le Seigneur de tous les cœurs, de se consacrer à lui, de l'aimer. Oui, après que le Seigneur ait agi dans leur vie pour décanter les situations, ces personnes ont oublié toutes les promesses vis-à-vis de Dieu, bien entendu. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Beaucoup viennent dans les assemblées chrétiennes parce qu'ils ont des problèmes. Et ils font toutes sortes de vœux à Dieu. Si Dieu m'aide dans mes problèmes, si Dieu me sort de ma situation, non, je vais le servir toute ma vie. Et lorsque Dieu commence à agir, ces personnes disparaissent, on ne les voit plus. Ce n'est pas normal. Vous deviez être un homme et une femme de parole. Oui, c'est ainsi que beaucoup bloquent même les bénédictions de Dieu dans les vies. Parce que ces personnes ne sont pas des hommes et des femmes de parole. Oui, il y a beaucoup qui ont commencé à expérimenter les délivrances de Dieu, les guérisons de Dieu, les miracles de Dieu dans leur vie. Et Dieu attendait à ce que ces personnes honorent les engagements vis-à-vis de lui. Que ces personnes se consacrent davantage à lui. Ce que Dieu attendait parfois ou attend souvent des gens. Mais la plupart du temps, au lieu que les gens s'attachent encore davantage à Dieu et se soumettent encore davantage à Dieu, selon qu'eux-mêmes ils avaient promis, parfois même publiquement, ces personnes commencent plutôt à reculer en arrière, rentrent même parfois dans leur ancienne vie. Et conséquence, les miracles de Dieu s'arrêtent dans leur vie. Et c'est ainsi que beaucoup même rechutent. Et parfois les conditions présentes et encore même pire qu'avant. Non, mesdames et messieurs, soyez des hommes et des femmes de parole. Lorsque vous avez promis à Dieu de le recevoir comme Seigneur Sauveur, de l'aimer, de le servir, honorez votre parole. Honorez, honorez. Peu importe ce que ça va vous coûter. Anne, lorsque elle s'est retrouvée enceinte et qu'elle a mis au monde cet enfant, elle avait beaucoup de raisons de ne pas honorer ce qu'elle avait promis à Dieu. Elle pouvait dire à Dieu, « Oh Seigneur, tu vois comment je me suis tellement habitué à cet enfant. Oui, j'aime tellement cet enfant. Tu vois, nous sommes tellement proches. Oui, ça ne serait pas facile pour moi de me séparer de cet enfant. Non, je ne peux plus honorer ce que j'avais dit. Tu peux te défendre comme tu peux. Je vais garder cet enfant pour moi. » Mais elle avait de bonnes raisons, entre guillemets, pour ne pas obéir ou bien pour ne pas honorer ce qu'elle avait dit au Seigneur. Mais elle a pris ses responsabilités en main. Elle est partie dans la maison de l'Éternel et elle a dit, voici ce que j'avais dit, que cet enfant soit consacré à Dieu toute sa vie. Alléluia. Et je suis sûr que ça n'a pas été facile pour elle de venir comme ça, laisser son unique enfant, très jeune même, parce qu'elle venait même de le sévrer, comme nous l'avons lu. C'est ça. Dieu aime les hommes et les femmes vraiment des paroles. Et rassurez-vous, si vous êtes un homme et une femme de parole, que chaque fois lorsque vous prenez un engagement, vous tenez et vous faites tout pour vraiment accomplir ce que vous avez dit, vous serez l'ami de Dieu. Oui, Dieu n'aime pas les menteurs et les hypocrites. Oui, Dieu n'aime pas les hypocrites et les menteurs. Lorsque vous avez pris l'engagement de faire des choses pour Dieu, honorez cet engagement. Lorsque vous avez fait un vœu à Dieu, que si Dieu me fait ceci, si Dieu me bénit, si Dieu me fait ceci, je veux aussi en retour faire telle chose. Lorsque Dieu va vous bénir, vraiment, ne reculez plus. Allez de l'avant avec Dieu et faites ce que vous lui avez dit. Même si ça va vous coûter, peu importe, le prix à payer, faites. Vous allez ainsi donner l'occasion à Dieu de continuer de vous bénir. Si nous lisons l'histoire de cette femme, la Bible nous dit que par la suite, elle va encore enfanter beaucoup d'autres enfants. Dieu va vraiment bénir cette femme. Et c'est ainsi que même cet enfant sera aussi tellement béni. Oh, que c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et avant de nous séparer, oui, avant de nous séparer, je vais lire dans Ecclésiaste, chapitre 5. Le verset 3 qui dit ceci, « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. » Alléluia. Accomplis le vœu que tu as fait. Donc, lorsque tu as déjà fait un vœu, il faut accomplir. Sinon, tu es comme un insensé ou une insensée aux yeux de Dieu. Et la Bible dit, « Dieu n'aime pas les insensés. » Et l'apôtre Jacques va dire ceci. Oui, l'apôtre Jacques va dire quelque chose de très, très important. Et voici ce qui est écrit dans Jacques chapitre 4, à partir du premier verset. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici que parfois les gens demandent et ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. Tout simplement dans le but de vraiment satisfaire les plaisirs et les passions mondaines. Mesdames et messieurs, voilà le secret. Voilà le secret. Si vous voulez obtenir quelque chose de Dieu, vraiment demander selon Dieu et pour la gloire de Dieu. Oui, demander uniquement pour glorifier Dieu. C'est ça, prier selon Dieu. C'est ça, demander selon Dieu. Et lorsque vous avez fait un vœu, vraiment, il faut honorer ce vœu. Lorsque vous avez pris l'engagement de servir le Seigneur, de le suivre, il faut honorer cet engagement. Sinon, Dieu vous considère comme une personne insensée. Et rassurez-vous, toutes les fois que vous allez prier selon Dieu, il y aura un exaucement. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Et avant de finir, une fois de plus, je proclame au nom tout-puissant du Seigneur Jésus qu'à partir de maintenant même, au cours de cette année même, il y aura un changement dans votre vie. Là où il y avait la mort spirituelle, il y aura la vie. Beaucoup vont prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Là où il n'y avait que tristesse, frustration, déception, échec, désespoir, désormais vous allez voir de l'espoir jaillir dans votre cœur, dans votre vie. Vous allez voir la lumière de Christ vous éclairer. Vous allez voir le succès, la réussite de Dieu, les bénédictions et les grâces de Dieu surabonder dans votre vie. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la religion ne sauve pas. Vous pouvez être religieux, vous pouvez être même croyant selon la religion, mais ne pas connaître le Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que vous avez besoin d'ouvrir votre cœur pour recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ainsi, ce que la Bible appelle naître de nouveau. Et lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez désormais une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Et c'est cette relation personnelle qui rend la vie chrétienne vivante et qui fait de vous vraiment une personne qui est fière de sa vie, une personne sur le visage duquel rayonne la joie du Seigneur, la paix du Seigneur, oui, et la victoire du Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, et vous tous, où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous séparer d'un moment à l'autre et nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ce moment. Merci pour toutes ces multitudes, où qu'elles se trouvent, et tant ta puissante main sur chacun personnellement, sur chaque personne. Oh Dieu, tu connais le problème de cette personne. Interviens vraiment, entre dans la vie de cette personne. Change, oh Dieu, complètement la vie de cette personne. Oh Dieu, tu connais ceux-là qui ont l'amertume dans le cœur, qui sont vraiment attristés. Tu connais même ceux-là qui prient et qui n'ont pas reçu parce que ces personnes prient mal. Aide-les. Donne à ces personnes de se donner entièrement à toi d'abord, de se consacrer, de prendre l'engagement, de te suivre et de te servir, toi seul en esprit, en vérité. Seigneur, donne-les cette grâce et en retour, au cours de cette année même, Seigneur, bénis-les, visite-les, délivre-les et qu'au moment opportun, des multitudes puissent témoigner que tu as fait de grandes choses dans leur vie. Que beaucoup même, qui n'ont même pas d'enfants par ta grâce, puissent enfanter au courant de cette année même, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Et que, Seigneur, cet enfant serve à la gloire de ton Saint-Nom. Que, Seigneur, beaucoup qui ne voyaient que l'échec, Seigneur, dans les activités, dans les entreprises, dans les vies chrétiennes, qu'à partir de maintenant, Seigneur, qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait vraiment une restauration totale, qu'il y ait, Seigneur, vraiment une grâce spéciale dans les vies qui va changer radicalement, Seigneur, tout ce qu'ils font positivement pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur Jésus, parce que tu agiras certainement selon ta richesse et avec gloire. Et toute la gloire va te revenir à toi seul maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Oui, que le Seigneur bénisse abondamment notre nation. Que le Seigneur bénisse abondamment notre ville et notre département. Que le Seigneur bénisse abondamment toutes nos autorités. Alléluia. À bientôt et que la bonne main du Seigneur soit sur vous tous. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot, pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 et aussi au 96 36 25 40. 77 61 93 77 et aussi au 96 36 25 40. Et veuillez précéder ces deux numéros de 00237 si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NJENDJI. Rodrigue.genji@yahoo.fr. Vous venez d'écouter la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui libère. Vous tous qui aimez la vérité et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Ne gardez pas ce message pour vous seul. Faites tout pour le partager avec le maximum de personnes autour de vous. Et je suis sûr que le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas de vous bénir. À bientôt. Et que la bonne main du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Et surtout, n'oubliez jamais que le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Amen.